La mort dans les jeux vidéo est rarement une simple mécanique de jeu. À la base, elle sert de miroir à nos propres angoisses, croyances et conceptions culturelles de la mortalité. Mais que se passe-t-il lorsqu'un jeu traite la mort non pas comme un simple échec, mais comme quelque chose à explorer, à questionner, voire à accepter? La plupart des jeux la traitent comme un désagrément mineur. Un rechargement rapide, une réapparition, une perte de progression. Mais sous ce traitement superficiel se cache une question philosophique plus profonde. Que signifie mourir dans un monde numérique? Et comment ces morts virtuelles font-elles écho à notre compréhension de la mortalité et de la réalité? Dans les rues brumeuses de Silent Hill 3, la mort n'est pas un simple écran de fin de partie. Le voyage d'Heather Mason à travers cette ville cauchemardesque se déroule dans un espace lénitif, entre vie et mort, réalité et cauchemar. Contrairement à son prédécesseur, Silent Hill 3 aborde la mort à travers le prisme de la naissance et de la renaissance. Heather porte en elle l'âme réincarnée d'Alessa et du dieu du culte de l'ordre. L'autre monde de Silent Hill, avec ses murs de métal rouillé, ses parois de chair vibrante et sa décrépitude industrielle, représente une sorte de mort vivante. C'est un lieu où les frontières entre la vie et la mort s'effondrent, où l'environnement lui-même semble respirer une vie ardente tout en pourrissant de l'intérieur. Lorsqu'Heather découvre le corps assassiné de son père, le jeu nous offre un moment rare dans le jeu d'horreur, une mort irréversible, une perte qu'il faut porter. Cette mort permanente façonne les motivations et l'état émotionnel d'Heather, la plongeant plus profondément dans le cauchemar, non pas pour échapper à la mort, mais pour l'affronter, la comprendre et, finalement, l'infliger aux responsables. Les monstres de Silent Hill 3 approfondissent cette exploration philosophique. Les infirmières grotesques, les patients contorsionnés, les créatures inquiétantes, tous vivent entre la vie et la mort. Leur humanité est arrachée, mais pas totalement disparue. Ils incarnent l'horreur d'une mort qui ne détruit pas la conscience, mais la transforme en quelque chose d'inconnaissable. Dans l'un des moments les plus marquants du jeu, Heather affronte symboliquement sa propre mort dans la salle des miroirs. Son reflet, une version d'elle-même, doit mourir pour qu'elle puisse progresser. Cette confrontation littérale avec sa propre mortalité force Heather et le joueur à considérer la mort non pas comme un échec, mais comme une transformation nécessaire. Le récit de Silent Hill 3 culmine dans une naissance qui nécessite la mort. Le dieu qui sommeille en Heather ne peut naître que par la destruction. Cette relation paradoxale entre création et annihilation suggère que la mort et la vie ne sont pas opposées, mais complémentaires, dans un cycle où aucune ne peut exister sans l'autre. Les multiples fins du jeu accentuent cette complexité philosophique. Selon les actions du joueur, le voyage d'Heather se conclut de différentes manières, mais chaque fin reconnaît que quelque chose doit mourir pour que quelque chose d'autre vive. Qu'il s'agisse de la mort de l'innocence, de la mort de l'ignorance ou de la mort au sens propre du terme, Silent Hill 3 insiste sur le fait que la transformation exige un sacrifice. Jurger Development Spec Ops: The Line s'impose comme l'une des analyses les plus poignantes de la mort dans le jeu vidéo, non pas comme un obstacle mécanique, mais comme un poids psychologique et moral qui transforme ceux qui l'infligent. Sous ces airs de jeu de tir militaire conventionnel se cache une méditation poignante sur la mort psychologique qui engendre la mort physique. Le jeu suit le capitaine Martin Walker et son équipe de la Delta Force alors qu'ils entrent à Dubaï après qu'une tempête de sable catastrophique a détruit la ville. Ce qui commence comme une mission de sauvetage se transforme progressivement en un voyage cauchemardesque au cœur des ténèbres, Walker devenant de plus en plus instable et violent alors qu'il affronte les conséquences de ses actes. Ce qui rend la philosophie de la mort de The Line si profonde, c'est son refus de la considérer comme un événement banal ou sans conséquences. Contrairement à la plupart des jeux de tir militaire où tuer est glorifié et récompensé, The Line force les joueurs à assister aux conséquences de leur violence. Les corps ne disparaissent pas, mais demeurent comme des souvenirs de vos actes. Les victimes civiles ne sont pas ignorées, mais hantent le récit et l'esprit de Walker. Le moment le plus tristement célèbre du jeu survient lorsque Walker utilise du phosphore blanc pour éliminer ce qu'il croit être une forteresse ennemie, pour finalement découvrir qu'il a tué des dizaines de civils innocents. Des milliards. Le jeu force le joueur à traverser lentement le carnage, témoin des corps calcinés, dont une mère serrant son enfant dans ses bras. Cette scène représente une forme de mort pour Walker lui-même. Non pas la mort physique, mais la mort de son image de héros, de sauveteur, d'homme bon. Alors que Walker s'enfonce dans la folie, la frontière entre la vie et la mort s'estompe. Des personnages décédés réapparaissent dans des hallucinations. Walker lui-même est peut-être mort ou agonisant pendant une grande partie du jeu, une interprétation suggérant que tout ce qui se passe après le crash de l'hélicoptère n'est qu'une tentative d'un homme mourant de justifier ses actes. Le jeu laisse délibérément cette ambiguïté, suggérant que la mort psychologique, la mort de l'identité morale, pourrait être plus significative que la mort physique. Les multiples fins du jeu offrent différentes conclusions philosophiques sur la mort et la responsabilité. Walker peut se suicider, être tué au combat ou rentrer chez lui avec les blessures psychologiques de ses actes. Aucune de ces fins n'offre de rédemption ni d'échappatoire à ses actes. La mort qu'il a causée est irréversible, et la personne qu'il était est indestructible. L'élément le plus subversif de cette réplique réside dans la manière dont elle implique le joueur dans sa méditation sur la mort. Vous êtes ici parce que vous vouliez vous sentir comme quelqu'un que vous n'êtes pas, un héros, explique-t-il directement au joueur. Dans un monde où la mort est généralement considérée comme un divertissement, cette réplique nous force à affronter le vide moral du plaisir de tuer virtuellement. La seule solution gagnante suggérée par le jeu était de ne pas jouer du tout. Un méta-commentaire sur notre approche de la mort dans les espaces de jeu. Jeu de friction. Soma explore les dilemmes philosophiques de la conscience, de l'identité et de la véritable signification de la mort. Se déroulant dans un centre de recherche sous-marin, après une extinction mondiale, S pose la question : si votre conscience peut être copiée, l'original que vous êtes meurt-il vraiment ? Le protagoniste, Simon, découvre qu'il n'est pas humain, mais le scan cérébral d'un homme mort depuis longtemps, désormais hébergé dans un corps robotique. Chaque fois que Simon transfère sa conscience dans un nouveau corps, la copie originale demeure, consciente, vivante et abandonnée. Cela soulève l'une des questions philosophiques les plus dérangeantes du jeu vidéo. L'existence continue d'une copie de sa conscience équivaut-elle à l'immortalité? Ou s'agit-il simplement d'un cruel écho de son existence après sa véritable mort? S force les joueurs à affronter cette question directement à travers le gameplay. À un moment crucial, Simon doit copier sa conscience dans un nouveau corps pour progresser. Une fois le transfert terminé, le joueur reste dans le corps original, observant la copie s'éloigner pour poursuivre son voyage. Il s'agit d'une représentation mécanique de la mort philosophique. Être abandonné alors qu'une version de soi-même perdure crée un profond sentiment d'angoisse existentielle. L'environnement sous-marin du jeu renforce cette exploration philosophique. Les profondeurs écrasantes de l'océan, l'isolement du complexe et l'obscurité constante créent un sentiment d'être coincé entre la vie et la mort, vivant dans un espace liminal où les frontières entre les deux s'estompent. L'UAW et l'intelligence artificielle devenue incontrôlable tentent de préserver la vie humaine en intégrant la conscience humaine aux machines, ce qui donne souvent naissance à des entités monstrueuses et souffrantes, vivant dans un état intermédiaire entre la vie et la mort. Ces créatures sont autant de questions philosophiques ambulantes. Cette préservation de la conscience est-elle véritablement la vie? Ou est-ce un destin pire que la mort? Vaut-il mieux mourir pour de bon que d'exister dans un état de souffrance perpétuelle? Catherine, copie IA d'une chercheuse humaine, représente un autre aspect de cette recherche philosophique. Elle se croit humaine jusqu'à ce qu'elle soit confrontée à la vérité de sa nature artificielle. Cette prise de conscience qu'elle n'est pas celle qu'elle croyait être, que la Catherine originelle est morte depuis longtemps, soulève des questions sur la nature de l'individualité. Si notre conscience peut être reproduite, la conscience originelle a-t-elle un statut particulier ? La mort du corps équivaut-elle à la mort du soi si l'esprit perdure sous une autre forme ? Alors que la surface de la Terre devient inhabitable et que les derniers corps humains meurent, la conception traditionnelle de la mort, considérée comme la cessation des fonctions corporelles, semble insuffisante dans un monde où la conscience peut être transférée et reproduite. La mort n'est peut-être pas un état binaire, mais un spectre d'existence avec différents stades de transformation et de continuité. Shadow of the Colossus, de l'équipe Aiko, aborde la mort sous l'angle du sacrifice, de la nécessité et de l'ambiguïté morale. Le protagoniste, Wander, pénètre dans une terre interdite pour ressusciter une jeune femme nommée Mono, sacrifiée pour un destin supposément maudit. Sa quête l'oblige à traquer et à tuer 16 colosses, des êtres massifs qui évoluent entre la vie, la mort et le paysage. Ce qui rend le traitement philosophique de la mort de Shadow of the Colossus si puissant, c'est son refus de simplifier ou de moraliser. La mort de chaque colosse est présentée comme à la fois tragique et nécessaire. Une chasse sacrée qui exige révérence autant qu'elle requiert violence. À chaque chute d'un être massif, une mélodie sombre retentit et des vrilles noires pénètrent le corps de Wander, le corrompant visiblement. Cette métaphore visuelle suggère que donner la mort change celui qui la donne, que nous ne pouvons prendre la vie sans que cet acte ne nous transforme à son tour. Les colosses eux-mêmes existent dans un état léniniste, entre la vie et la mort. Mi-créature vivante, mi-architecture antique. Ils errent dans les terres interdites, gardiens de quelque chose de plus grand qu'eux. Leur mort n'est pas seulement la fin de leur existence, mais la libération de quelque chose qu'ils contenaient, des fragments d'une entité brisée nommée Dorman, qui promet de ramener Mono à la vie. Cet échange, 16 morts pour une vie, soulève de profondes questions sur la valeur et l'échange de la vie et de la mort. Est-il justifiable de mettre fin à plusieurs vies pour n'en restaurer qu'une? La nature des êtres tués, leur sensibilité, leur raison d'être, leur forme, modifie-t-il le calcul moral de leur mise à mort? Le jeu refuse de répondre directement à ces questions, invitant les joueurs à les affronter au fil de leur chasse solennelle, tandis que Wander est de plus en plus corrompu par l'essence du colosse. Son apparence physique change. Sa peau s'assombrit. Des cornes commencent à pousser sur sa tête. Cette transformation reflète sa corruption morale et spirituelle, suggérant que donner la mort transforme fondamentalement la nature humaine. Dans le dernier acte du jeu, Wander lui-même meurt pour renaître sous la forme d'un enfant cornu, suggérant un cycle de mort et de renaissance transcendant la mortalité individuelle. Dans ses derniers instants, le jeu révèle que Mono a été sacrifiée précisément parce qu'elle avait le pouvoir de résister à l'influence de Dorman. Sa résurrection n'est pas seulement l'accomplissement de la quête de Wander, mais le début d'un nouveau cycle. L'enfant cornu Wander Reborn sera élevé par Mono, créant un avenir façonné par les morts qui l'ont précédé. Ce que ces jeux révèlent par leurs approches variées de la mort, c'est que notre relation à la mortalité et au monde virtuel reflète nos luttes avec elle dans la réalité. Et c'est peut-être là la position philosophique la plus réconfortante sur la mort que les jeux puissent offrir. Non pas que la mort puisse être surmontée ou évitée, mais qu'elle puisse avoir un sens. Que nos fins, comme nos débuts et nos milieux, peuvent servir un but dans une histoire plus vaste, même si cette histoire continue sans nous. Au final, les jeux ne résolvent pas le mystère de la mort ni n'apaisent notre peur. Mais ils nous offrent des espaces pour affronter cette peur, pour expérimenter différentes approches philosophiques de la mortalité. Et pour nous entraîner à trouver un sens à la vie et à son inévitable conclusion.